French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Il y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Une femme d'expatrié qui va pendant 2 ans, tout le monde lui dit, elle a rien fait. Tout le monde a dit, t'as rien fait en fait. Bah en fait, elle a fait des choses. Elle a fait tellement de choses qui sortaient de sa zone de confort qu'en fait, elle a appris des choses. C'est des skills. C'est juste qu'on ne les valorise pas parce qu'on ne peut pas les valoriser de cette manière, que c'est pas culturel. On en avait parlé, on m'avait dit, tu vas voir, et c'est dur, conjoint suiveur, surtout quand tu es parent, parce qu'en fait, c'est là où ça a été complètement bouleversant, parce que je ne savais plus qui j'étais. Mon identité, je ne savais plus qui j'étais, en plus avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout.
Salut, salut, c'est Anne Fleur de French Expat, le podcast qui raconte les histoires de ceux qui sont partis et parfois revenus. Hier, c'était la fête des mamans en France. Au nom de toute l'équipe de French Expat, je vous souhaite, à vous, mamans de fait, de droit, en devenir, en attente, endeuillées, à vous toutes, une très joyeuse fête des mamans. Pour l'occasion, nous avons décidé de rendre hommage au parcours des mamans expat qui quittent tout pour suivre un conjoint, qui font une pause plus ou moins longue dans leur carrière pour le bien de leur famille, qui parfois passent sous le tapis leurs problèmes alors que ça ne va pas du tout, et que l'expatriation n'est pas ce long fleuve tranquille qu'on espérait. Boutena est d'origine marocaine. Elle vivait à Paris, à 300 à l'heure, elle voyait son mari le week-end, puis un jour elle tombe enceinte et part s'installer à Atlanta avec son mari aux États-Unis. À partir de là, rien, mais alors rien, ne s'est passé comme elle se l'était imaginé. Si tant est que près de 2 ans plus tard, elle a dit stop. Elle a donné un grand coup de pied au fond de la piscine, à la recherche d'air, pour se retrouver et se reconstruire. La dépression postpartum, le burn-out maternel, apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin, voilà les sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Next stop, Atlanta, Georgia.
J'ai 34 ans, bientôt. Je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, né aux États-Unis. Je suis entrepreneure d'une plateforme digitale pour les jeunes parents. Je suis d'origine marocaine. J'ai la joie de vivre avec mon mari depuis bientôt 8 ans. Et puis, j'ai travaillé pendant 8-9 ans dans le conseil avant.
Est-ce que tu peux me parler un peu du contexte avant, quoi, de votre départ de France vers les États-Unis? À quoi ressemblait votre vie à ce moment-là, à toi et ton mari?
Explosé. On était typiquement le couple qui se voyait que les week-ends. Déjà parce que mon mari était très souvent en voyage et qu'en plus, moi, avec mon travail de business consultante, je travaillais beaucoup et qu'en plus, vu que mon mari n'était pas là, bah, je travaillais encore plus. J'étais un peu blasée, moi, de mon côté, de ce monde du conseil. J'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée de cette vie de couple vachement exposée. Mon mari, à ce moment-là, lui, était à fond dans sa carrière. Il adorait son métier, il adorait sa boîte, il adorait ce qu'il y faisait et ce que là où il allait aller avec eux. Et il était à fond motivé. On lui propose à différentes reprises plusieurs post-expatriations. Donc, on a pendant un long moment le temps de fantasmer. Je dis bien le mot fantasmer parce que ça s'est jamais concrétisé. À chaque fois, il y a eu des trucs qui se sont pas faits, c'est normal dans l'expat. Avant que ce soit fait, c'est toujours un peu compliqué. Mais on a failli partir s'installer à Bruxelles, à Tokyo, à Lugano.
Ah oui, rien à voir.
Une fois, il m'a appelé juste après une réunion dans ma journée un peu classique de parisienne, consultante à la Défense. Tu penserais quoi d'aller en Corée du Sud ? Non. Ouais, c'était un peu les journées...
Donc, t'étais plus surprise, quoi.
C'était un peu la blasée en lui disant « mais non !» Lui, il adorait son métier d'industriel et on savait que, dans tous les cas, pour ce genre de métier, il était un peu... le passage obligé de s'expatrier. Et en plus, moi aussi, j'aimais bien l'idée de pouvoir connaître autre chose, de rencontrer d'autres cultures. Je commençais à fatiguer de Paris. Lui, dans tous les cas, il était tout le temps avec ses valises, donc il voyait pas tout ça.
Ouais.
On avait déjà un projet d'agrandir la famille. Ça tombait au moment où je tombais enceinte. Et du coup, bim, entre guillemets, c'est le moment. Notre mode de vie n'était pas possible à trois comme ça, à Paris.
À ce rythme-là, à Paris.
À ce rythme-là, on était très peu aidés en plus. Enfin, donc, on se projetait plutôt dans un cocon ailleurs. Et donc, il vient un jour et il me dit « c'est bon, on pose notre dossier à l'ambassade américaine ».
D'accord. Alors, comment est-ce que tu as réagi à cette annonce ?
J'étais enceinte de quelques semaines. J'étais plutôt partante, comme je disais, parce que j'étais blasée, moi, professionnellement. Je sentais que j'étais prête.
J'étais prête à autre chose, quoi.
J'étais prête à prendre cette pause, cette bulle, pour faire autre chose, pour me dire, bon, voilà, j'ai mon prétexte pour avoir mon congé parental. Dans tous les cas, je vais gérer mon congé parental. On se l'était préparé pendant 6 mois. J'avais préparé même mon employeur à cette idée. Donc... j'étais plutôt in. La seule chose, c'est que voilà, le truc, c'était que c'était à Atlanta.
C'était pas une ville qui te faisait rêver ?
Non.
Est-ce qu'on peut situer, tiens, pour. Je suis sûre que, tu vois, c'est pas New York ou Los Angeles. Je pense que tout le monde ne situe pas forcément où Atlanta. Tu peux nous rappeler où c'est ?
Alors, c'est. Je sais pas pour ceux qui connaissent le film Autant d'emporte le vent. C'est la ville où Scarlett O'Hara, à ce moment-là, où elle se fait brûler autour et qu'il y a Red Butler qui vient débarquer la sauver. Et c'est une histoire vraie dans le sens où Atlanta était une capitale du Sud et que toute la ville a été brûlée. Et qu'ils ont perdu, en fait, tous les vieux bâtiments. Mais c'est une très belle ville à l'origine. On a quelques vestiges qui sont arrivés à garder. C'est une ville très ancrée dans le sud, dans l'inconscient sud, sudiste, voilà, je vais préciser ma pensée. C'est-à-dire qu'on peut trouver des maisons dans la région avec des drapeaux confédérés.
Drapeaux confédérés, pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que c'était pas, enfin, en tout cas, moi, quand je vivais pas aux États-Unis, je ne connaissais pas. C'est le drapeau, en fait, avant, donc, la réunification entre le Nord et le Sud. Et en gros, c'est des gens qui vivent un peu encore dans leur tête. Voilà. Au temps de l'esclavagisme, donc, la traite des Noirs.
Atlanta, c'est une ville, en plus, qui a une très forte population afro-américaine. Qui a une très forte population blanche à l'extérieur de la ville, mais qui a une très belle université, un très très beau CHU, une vie universitaire très active. D'ailleurs, l'université d'Atlanta, donc
Emory,
et même l'autre, George University, enfin j'ai oublié le nom, mais en gros a beaucoup de parallèles avec des écoles françaises, avec Toulouse, avec c'est vraiment ils ont pas mal de ponts et de jumelages avec des écoles d'ingénierie. Georgia Tech, voilà, exactement. C'est une très grosse ville, c'est la 6e des États-Unis. Une belle ville où on vit bien quand on est cadre supérieur, contrairement à d'autres villes américaines. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, on a le bon rapport qualité-prix entre ton salaire et ce que tu
peux te permettre. Parce que les grandes villes américaines sont très très chères.
C'est pour ça que je dis ça. Par exemple, si on la compare à San Francisco, c'est juste pas possible de vivre là-bas. Voilà. Après, si je dois caricaturer, nous, la crèche, après, pour payer, c'était 2 000 $ par mois.
C'est un peu moins cher qu'ici. Nous, ici, on est à 3 000. Voilà.
Ouais, d'ailleurs, je vais raconter cette histoire après, mais en gros, quand on est parti après à Georgetown et qu'on avait déjà visité Georgetown et Boston, j'ai dit à mon mari, après, notre expatriation se serait mieux déroulée si on avait vécu plutôt là-bas.
Ah ouais.
Oui, parce que Atlanta, en fait, vous avez l'impression que c'est une grande ville très européenne, mais en fait, c'est une ville américaine, dans le sens où les gens ne viennent dans cette ville que pour travailler. Et ils sortent. Donc, il y a des centres commerciaux,
Une ville assez jeune, du coup.
C'est une ville assez jeune. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, d'ailleurs. C'est pour ça que je crois que Dallas a été tourné là-bas, la reprise. Enfin, c'est vraiment...
Il y a des références
assez pop culture, assez incroyables. Bah, en fait, dans notre immeuble, il y a eu le film Miami... Flic à Miami, qui a été tourné, le dernier qui a été tourné. Ouais. C'est vraiment cette culture très grosse voiture, un peu clinquante. C'est vraiment l'âge d'or des gens qui veulent réussir et qui ont fait de bonnes études et qui ne peuvent pas se permettre d'aller à New York pour X ou Y raisons, parce que New York est quand même coûteuse et énergivore.
Énergivore, c'est clair. C'est une bonne description, ça.
Donc Atlanta, pour nous, c'était le bon, on va dire, compromis pour une famille qui allait se construire. Par contre, moi, je ne voulais pas aller en maison.
Ah ouais?
Ouais, parce que je voulais pas être l'expat avec la maison.
Ça veut dire quoi, être l'expat avec la maison?
Parce que tout le monde me disait autour de moi, mais tu vas aller en expat aux États-Unis, c'est bon, tu vas être dans une banlieue américaine avec la maison, le chien,
genre
la
à la
piscine.
Desperate Housewives.
Ouais. Donc, du coup, je voulais pas jouer cette carte-là. Et en plus, vu que je savais que mon mari allait pas mal voyager, même en expat, je me voyais pas être en maison.
Être seule,
voilà,
du coup.
Toute seule avec un enfant aux États-Unis. Bon. Après, Atlanta, c'est quand même une ville où les gens portent des armes à feu. Pas loin de chez nous, de l'immeuble. Enfin, le dernier mois, juste avant de partir en plein Covid, il y a eu, je sais pas, 4 tirs armes à feu dans un centre commercial. Enfin, c'était des trucs. Je me suis jamais sentie en fait vraiment en sécurité. C'est un truc très bizarre, très paradoxal. On sait qu'on est dans un pays puissant, mais on se sent pas en sécurité. Et ça, j'avais pas l'habitude en fait. Ayant vécu au Maroc, je sais ce que c'est d'être dans un pays où on n'est pas forcément en sécurité partout. C'est un sentiment diffus. En plus, j'étais enceinte, j'avais un bébé. Après, enfin, on est toujours un peu plus protectrice. Enfin,
Bien sûr.
Voilà. Et puis, j'avais pas d'amis. On a eu 3 jours pour aller à Atlanta, visualiser où on allait habiter et choisir notre quartier.
C'est-à-dire un voyage de repérage que vous avez fait avant de vous y installer?
Exactement. On a fait un voyage de repérage, si je dis pas de bêtises, en avril, qui est la meilleure saison pour visiter.
Parce que c'est un été assez humide. Hein,
Atlanta, c'est horrible. C'est horrible.
Le sud des États-Unis, pour ça, c'est dur.
C'est sous-tropical. Donc, il fait très, très chaud. Très, très lourd. Et en plus, moi, du coup, j'étais enceinte. Je pouvais pas sortir beaucoup parce qu'il y avait Zika à ce moment-là. Donc, les moustiques, il fallait pas. Enfin, bref. Et en plus, il faisait chaud, donc c'est toujours compliqué quand on est enceinte et qu'il fait 45 degrés dehors. Mais la meilleure période, si vous voulez visiter, pour aller entre Savannah, Charlottesville, des choses comme ça, le sud des États-Unis est assez joli. C'est très nature et découverte. L'automne est magnifique. Il est très doux. Ça me rappelait les automnes de Casablanca. Donc ça, c'était parfait.
Ah, génial. Donc c'est l'été qui était un peu hostile, quoi.
Ah ouais, c'est l'été jusqu'en octobre, il pouvait faire 35 degrés. Hein, c'est En plus, t'avais pas mal de tempêtes. C'était assez violent, quoi. Enfin, après voilà, on s'habitue, on sait qu'il va y avoir des inondations, mais c'est sûr que moi, typiquement, j'étais pas sereine aussi par rapport aux maisons là-bas. Peut-être que je me faisais des films, certainement. Et les maisons sont souvent construites en bois, et ils nous disaient, faites attention, il peut y avoir des foudres. Et ils nous le disaient avec une placidité sudiste. J'ai regardé, c'est-à-dire... excusez-moi, mais les maisons, normalement, c'est solide. Hein. Les 3 petits cochons, ce n'est pas possible. Hein. Et ça, c'est les écarts culturels, on se rend pas compte, mais les États-Unis, c'est vraiment différent. Et encore plus l'état de Géorgie.
Et en fait, c'est fou parce que tu vois, ce que tu me décris, ça n'a rien à voir avec les États-Unis que moi je connais. Si tu veux, ici, le port des armes, c'est ça existe pas.
Les gens ne marchent pas. Juste pour info, les gens ne marchent pas à Atlanta. Quand tu marches, les gens te regardent.
Ouais, c'est partie des nouvelles villes américaines. Buffalo, c'était ça aussi. Ouais. Non, c'est intéressant. Bon, alors attends, on reprend un peu l'histoire chronologiquement. Donc du coup, vous faites votre repérage. 3 jours. Bon, c'est déjà super chouette de pouvoir les avoir, mais j'imagine que ça passe très vite.
Franchement, pour le coup, on a eu de la chance. Mais par contre, on n'avait toujours pas de plan où on allait habiter. On a trouvé à peu près où on allait habiter. C'est les fameux immeubles avec piscine, service, bel appartement, mais que du vitrage. Donc sympa. Dur pour l'écologie en été. Ça, c'est des trucs...
très chaud.
Aquarium, du Sud-Amérique. Enfin, de l'Amérique du Sud. Enfin, c'est vraiment particulier. Et ils aiment bien les grandes baies vitrées. Ils s'en foutent d'utiliser la climatisation à fond. Mais voilà, c'était... on a trouvé à peu près notre quartier. Moi, je voulais quelque chose walkable pour Whole Food. Pour Publix, enfin c'est des choses comme ça.
Aller faire tes courses à pied, quoi. Exactement. Être indépendante à pied.
Exactement. Mais à ce moment-là, il y a eu quelqu'un dans l'équipe de mon mari qui m'a dit mais ta femme, elle doit absolument conduire ici. Moi, j'ai regardé. Il y a Amazon. Hein. Et je déteste conduire. Quand on m'a dit ça, on me l'a dit surtout à mon mari. Du coup, mon mari a fait une pression de malade, mais moi, j'ai pas changé d'un iota. Donc, il était convaincu que j'étais pas bien parce que j'avais pas conduit la voiture.
Alors, question. Tu dis donc que tu travaillais pas. Enfin, t'es arrivée aux États-Unis. Mais c'était un changement hyper radical, quoi. Parce que tu bossais comme une dingue à Paris. Ton mec était tout le temps en déplacement. Ouais. Là, maintenant, t'arrives, t'es enceinte. Dans un nouveau pays, là où en plus il faut conduire, ça t'intéresse, enfin, c'est pas un truc qui te branche particulièrement. T'es du coup plus à la maison. Enfin, tu passes d'un extrême à l'autre. Comment est-ce que tu vis ce ralentissement?
Mal. Très mal. Ouais. Parce qu'en plus, il y a un décalage horaire. Je me sentais décalée. J'avais plus rien à raconter à mon mari. J'avais plus rien à faire. J'avais un pseudo-blog à l'époque, j'ai essayé de me maintenir, j'ai essayé de lire, de me former à des trucs. En plus, avec la grossesse, j'avais envie de rien faire. J'avais ce truc de la grossesse où en fait, on est fatigué, on sent les neurones fatigués. J'avais envie de dormir tout le temps, alors que moi, je dormais jamais, je faisais pas de sieste. Je dormais assis sur mon fauteuil, c'était des trucs... Ça m'est rarement arrivé de me sentir aussi... ça a été très dur. J'ai passé mon anniversaire, d'ailleurs, toute seule. Parce que mon mari était en déplacement. Et j'étais enceinte de 7 mois, 8 mois. Et puis tout le stress à côté de trouver le bon docteur. Dans tous les cas, jusqu'à mes 9 mois, en fait, ma bande passante était sur le bébé. C'était la grossesse, trouver le bon docteur, parler anglais déjà. Parce qu'il fallait parler le langage technique de la grossesse, un médecin.
Ça te stressait, ça?
Ça m'a pris la tête, parce qu'en fait, j'étais pas particulièrement à l'aise avec l'anglais. Mais en même temps, c'était un bel exercice. Et puis, les Américains, vu que, en fait, on sait pas d'où venez, ils s'en foutent quelque part. Donc, vous parlez comme vous voulez. Ils acceptent, en fait, l'accent, contrairement. J'avais déjà vécu, en fait, une forme d'expatriation en France. Et en France, on n'arrêtait pas de me dire d'où vous venez, quel accent vous avez, d'où vient votre prénom, comment on le prononce.
C'est fou.
Les Américains, c'est la magie de l'Amérique, c'est ils vous prennent comme vous êtes. Bon, après, ça a été galère.
C'est clair.
Essayez d'appeler Boutena en anglais pour la numéro de sécurité sociale. Bon courage. Avec l'accent, et l'accent sudiste, hein. S'il vous plaît, essayez de comprendre l'accent sudiste.
C'est vrai qu'il y a un accent, c'est vrai.
Mais c'était des trucs, j'ai passé mon temps déjà pour aménager notre foyer. Parce qu'en fait, on est parti avec nos valises, ils n'avaient pas de déco ni rien. Donc, il fallait tout trouver, trouver les marques, se faire livrer. Ça a été quand même une logistique assez importante pour se sentir à la maison avant l'arrivée du bébé. Et en fait, j'étais dans cet état de fébrilité qui me prenait beaucoup d'énergie et je ne me rendais pas compte, en fait. Et en fait, à ce moment-là, ma culpabilité et le fait de manquer de confiance en moi, ça a commencé à prendre le pas à ce moment-là. En plus, on se disait, c'est les hormones de grossesse. Voilà, c'est, tu changes, ouais. C'est les hormones de grossesse. C'est ça. Dans tous les cas, c'est les hormones.
Tout le monde te disait ça. Ouais.
À ce moment-là aussi, mes parents ne reçoivent pas le visa, donc je commençais à être...
Ils voulaient venir te voir ?
Ils voulaient venir me voir pour l'accouchement.
D'accord.
La perspective d'accoucher sans ma mère a été très, très, très dure à digérer. Et j'avais remué ciel et terre, parce que c'est elle en particulier, qui n'a pas eu le visa. Mon père a eu le visa, mais pas ma mère.
C'est parce qu'ils sont au Maroc, ils ne peuvent pas venir avec comme le visa touriste.
C'est ça, ils font un visa.
Comme
ils font un visa B. D'accord. En fait, ils font un visa B touriste, ouais. Mais pas un ESTA. Ils font un visa.
C'est dur. Ça.
Ah, ça a été dur. Et en même temps, en fait, pour la blague, c'est que ma mère vient de recevoir le visa américain.
Sérieux ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
On n'a jamais su pourquoi. On a essayé de contacter l'ambassade. En plus, les ambassades américaines essayent de les contacter. C'est comme... Il y a un mur, en fait. On n'arrive pas. On n'a pas d'infos.
Ouais. Donc, si je récapitule, une fin de grossesse difficile, ton mari qui voyage beaucoup, tu te retrouves seule, tu as du mal à t'intégrer, à te sentir chez toi. Ta famille ne pourra pas être là pour l'accouchement. Tu as quitté ton job, donc tu as aussi passé tes rythmes d'un extrême à un autre. Comment ça se passe du coup ?
Déjà, je détestais l'idée d'être mère au foyer. C'est pas en fait, je l'assumais pas. C'était bête. Je sais que c'est un travail de malade. Je savais rationnellement qu'on en avait besoin en plus, parce que logistiquement parlant et même dynamiquement parlant, c'est-à-dire nos dynamiques de famille ne pouvaient pas survivre deux parents qui sont jamais là. Et c'est pour ça, je vais détruire un mythe tout de suite, c'est qu'on n'était pas l'expat. Normalement, quand il y a les couples d'expats qui partent en Géorgie, ils prennent la voiture et ils passent toute la semaine en train. Parce que normalement, on finit tôt en Géorgie, Atlanta, de travailler. Et puis après, on profite de la life, barbecue. Enfin, nous, c'était pas ça. Il rentrait, il était tellement fatigué qu'il comatait. Il terminait le tard le soir, il commençait très tôt pour l'horaire américain, pour l'horaire français. J'avais mon mari à côté de moi, mais j'avais pas l'impression de l'avoir vraiment plus retrouvé que quand il était au Japon.
Ouais, c'est fou. Tu me disais que en fait, tu t'étais préparée à ce que ça aille bien. Parce que tu avais déjà, en fait, finalement, tout plaqué une fois pour le rejoindre. Tu avais quitté le Maroc pour venir t'installer en France. Tu peux m'expliquer un peu le parallèle, du coup, et ce qui est vraiment différent cette fois-ci ?
Plein de choses. En fait, déjà, la première fois où j'ai été expat, je ne me considérais pas expat. Parce qu'on ne considère pas une Marocaine qui vient faire des études pour rejoindre son chéri expat. En France, on n'appelle pas ça expat, on appelle ça immigré à la limite, regroupement familial, même si c'était pas vraiment un regroupement familial.
Ouais, mais dans ta tête, tu te dis que tu pensais que tu venais de manière temporaire ou
t'installer pour une nouvelle vie. C'était vraiment une nouvelle vie. Je savais vraiment que c'était mon mari, que c'était mon fiancé à cette époque-là et que on était venus, on allait nous établir vraiment à Paris. La différence, c'est que je me suis inscrite à l'université Paris Dauphine. Je vous rassure tout de suite. Le choc culturel a été quand même dur et pourtant je maîtrisais la langue, je maîtrisais soi-disant les codes culturels et en fait c'était malgré tout trop dur parce que déjà il n'y avait pas le soleil. Et ça a été dur. Et en fait j'ai mis un an à m'en remettre.
Ah ouais.
Parce que j'avais pas beaucoup d'amis, qu'il fallait refaire tout le tissu social, que j'avais perdu ma confiance en moi à trouver du travail parce qu'en plus voilà tout ce que j'avais construit là-bas. Était remis en cause. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne me sentais pas prête à travailler enceinte aux États-Unis. Je savais ce que ça allait me coûter énergétiquement, entre guillemets. J'étais enceinte de 4 mois et demi. Je ne me voyais pas investir la même énergie que j'avais investie en France, beaucoup plus jeune en plus, pour en plus un travail que j'allais mener pendant quelques mois avant de m'arrêter. Et qu'en plus, pour le coup, pour en avoir parlé à d'autres femmes qui étaient dans exactement la même situation, l'univers professionnel américain est très, très dur. C'est autre chose. Et il faut avoir le temps et l'envie pour s'y investir, ce qui est normal, comme tout univers professionnel. Sauf que moi, je me sentais pas disponible. Voilà. Et donc, effectivement, moi, je me disais, bon, bah, dans tous les cas, ça va, tu l'as déjà fait une fois, tu t'en es relevé. Bon, il y a un paramètre qui a changé, c'est quand même ma maternité et le fait de vraiment officiellement dépendre financièrement de mon époux. Même si on avait établi un mécanisme de compensation, parce que voilà, je réalisais une création de valeur, et qu'on avait fait l'expatriation ensemble, on avait établi un mécanisme de rémunération. On m'en avait parlé, on m'avait dit, tu vas voir, c'est dur, conjoint suiveur, surtout quand tu es parent, parce qu'en fait, là, tu sais, en fait, c'est là où ça a été complètement bouleversant, parce que je savais plus qui j'étais. Mon identité, je savais plus qui j'étais, en plus avec l'accouchement, avec ce qui s'est passé après et tout. Même si j'avais eu un accouchement peinard, tout s'est bien passé, mais vraiment, physiologiquement, c'est bien déroulé. Je savais plus qui j'étais et je savais plus qu'est-ce que j'étais capable de faire, en fait, personnellement. Et en réalité, maintenant, avec le recul, ces 2 ans passés là-bas, j'ai énormément appris et je le regrette pas. Mais ça a été challenging, on va dire.
Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource, en fait, pour... continuer cette grossesse de la maison?
Déjà, la première chose, c'est pour ça que j'ai créé ma boîte, parce qu'en fait, je me suis rendu compte vraiment de la solitude de l'expérience, parce qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient se faire à distance. Il fallait se déplacer en France, il fallait se déplacer aux États-Unis en plus, j'y comprenais rien.
C'est quoi ta boîte exactement, du coup?
The Helper, c'est une plateforme de bien-être pour les parents et les enfants. Mm-hmm. C'est pour aider les parents à naviguer ces 3 premières années. C'est comme une plateforme de formation à distance, en gros, mais personnalisée. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas des masterclass préenregistrées seulement. Il y a un peu de tout pour chacun sur toute la période, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. C'est vraiment... C'est même la partie professionnelle, c'est le stress parental, c'est le postpartum, c'est éveiller son enfant. J'ai tout donné dessus parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Et en plus, je me rendais compte que même quand je venais à Paris pendant ces vacances-là, on est revenu à des périodes données pendant suffisamment de semaines. Je retrouvais mes parents à ce moment-là et ma belle-famille, mais j'étais dans un tel état. C'est un tel état que j'ai mis un mois à m'en remettre, en fait. Parce que j'étais hyper fatiguée, parce que mon enfant ne dormait pas, parce que j'avais pas eu de visage familier que je connaissais autre que mon mari depuis ce moment-là. Après, j'ai eu de la chance. C'est que grâce aux Américains, et ça, c'est la magie des Américains, il y a eu quelqu'un, une concierge, je crois, qui a parlé de moi à ma voisine, qui a dit « Ah, mais tu sais, en fait, elle est enceinte aussi, et toi, tu as un jeune enfant, parlez-vous, voilà. » Et du coup, on est devenu ma mom friend, vraiment, qu'on se voyait tous les jours, c'était ma voisine vraiment d'immeuble. Et ça a permis de tenir le coup, vraiment, pour le coup, parce que on se voyait tous les jours, et puis du coup, ça a aidé même pour les enfants, parce que moi, je voulais pas que mon enfant soit tout le temps qu'avec moi, en fait. Moi, je voulais qu'il voit d'autres bébés. Et puis ensuite, on a fait le choix d'investir dans une crèche. Mais alors déjà, d'assumer, de dire que j'avais besoin d'aide, ça a été très dur pour moi. J'osais pas, je me disais, mais non, mais en fait, tu fais que ça, et tu n'arrives pas à le faire. Alors en fait, le fait d'assumer, de dire, mais juste, j'ai besoin d'une femme de ménage, je m'en sors pas, je suis jeune maman, j'ai un bébé tout le temps avec moi, et en fait, j'ai de la chance, j'ai un problème de riche, j'ai un grand appartement, mais j'arrive plus, je suis fatiguée, je ne supporte pas de voir des choses qui vont pas bien.
C'était quoi qui t'a empêché de demander un coup de main? Tu te sentais coupable?
Je me sentais dépendante. Je me sentais coupable, en fait. Je me sentais en faillite. Je me sentais en échec. T'as besoin de quelqu'un d'autre alors que normalement, tu devrais le faire. T'es femme au foyer. Tu devrais être capable de faire tout ça. Mmh. Et mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? En fait, c'est 2 travaux en même temps, 2 métiers dans une journée. Il n'y a pas de pause, les gars. je le dis maintenant, mais en même temps, à l'époque, j'étais pas capable de le dire avec autant de, d'humour et de sérénité, parce que c'était beaucoup plus dur pour moi de
m'aider. Ouais, t'étais en plein dedans.
Et puis, les ressources, non, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis, petit à petit, j'ai, comme je disais, ma famille, mes amis, j'ai retrouvé ma famille. Ça allait mieux. Puis, on a demandé de l'aide, donc il y a eu femme de ménage. Ensuite, la crèche, à mi-temps. Ça a coûté cher, mais c'était nécessaire même pour ces demi-journées. Je faisais que la demi-journée, j'arrivais... Je culpabilisais même pour ces demi-journées, j'en pouvais plus. Mais c'était largement nécessaire. Et puis, petit à petit, en remontant un peu le fleuve, le premier anniversaire passe. Ça va mieux, je dors toujours pas, mais ça va un peu mieux. Mon mari me parle d'une coach pour expat. Et elle a fait un TEDx et son TEDx c'est tellement ça que du coup en fait je l'ai contactée et j'ai suivi tout un parcours de coaching. Et ça c'est, je le recommande vraiment avant même d'y aller. Du coup j'ai pu travailler vraiment sur mon assertivité, ma manière de formuler les choses, à prendre du recul. En réalité, j'aurais dû même faire appel à un psy, en réalité.
C'est ce que j'allais dire, en fait, ça a peut-être été un peu justement ton psy, parce que, enfin, tu vois, d'une certaine manière...
Le psy va t'analyser ce qui s'est passé, alors que le coach va t'amener à prendre des décisions et des actions. Et moi, j'étais pas... en réalité, aujourd'hui, j'ai suffisamment travaillé sur ça. En fait, il y a plein de choses qui ont joué sur... ce qui s'est passé, même mon inconscient, parce que il y a des souvenirs avec ma maman qui sont ressortis, parce que ma maman aussi a connu, on va dire, une pause parentale assez similaire. Donc, il y a eu plein de comparaisons dans ma tête que j'avais faites sans faire attention, et qui se jouent, parce que quand on est mère, on le devient et on fait appel à nos souvenirs. Il y a plein de choses qui se déroulent à ce moment-là. Et j'aurais dû, c'est ce que je dis, j'aurais dû peut-être avoir un suivi. Comme ça, au moins pour pouvoir parler, chose que j'ai pas faite. Mais le coach m'a débloqué pas mal de croyances. Et c'est ça qui fait que depuis, du coup, j'ai créé deux podcasts. Une boîte.
ça a vraiment été ta reconstruction, quoi, en fait.
Donc au final, si je récapitule un peu où on en est, vous êtes resté un petit peu moins de 2 ans aux États-Unis, mais vous étiez parti pour rester plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Raconte.
Moi, j'ai dit stop. J'ai dit que dans les conditions actuelles, est-ce que ça valait le coup de rester aux États-Unis avec notre mode de vie? Voilà. On n'était pas heureux. On faisait ce qu'il fallait faire, mais on n'était pas heureux. Maintenant, on savait qu'il y avait des choses à faire. Est-ce qu'il fallait rester aux États-Unis? On n'était pas particulièrement. On a senti à ce moment-là que il y avait pas mal de choses de ce que je venais de décrire qui auraient été facilitées si j'avais été plus au nord. Tout simplement parce qu'il y aurait eu un tissu social européen ou européanophile plus compatible. Par exemple, Boston, par exemple, Georgetown, par exemple, peut-être un peu New York, mais New York était trop énergivore pour une petite famille comme nous. Et donc, on se voyait pas continuer dans la situation actuelle. On devait réfléchir sur des opportunités. Il devait réfléchir sur ses opportunités professionnelles. Et puis, Covid.
Du coup, je me demande quels ont été les grands enseignements de ton côté. Enfin, qu'est-ce que tu as appris sur toi? J'imagine que cette expatriation, même si elle a été un petit peu écourtée, même si elle a été éprouvante, t'a aidé à mieux te connaître?
Déjà que... je pouvais me monter tous les plans dans la tête. Si je les avais pas exécutés, ça servait à rien. Que peu importe tes diplômes, à un moment, il faut faire. Et que si tu mets suffisamment d'intensité et d'énergie, tu vas y arriver. C'est vraiment l'école américaine. Et j'aime bien leur côté... pas réclasse, mais un peu optimiste, voilà. c'est ce côté optimiste. J'ai jamais vu ça, en fait. Moi, je viens du futur où quand même on est assez défaitiste, on est fataliste face au destin, on se laisse porter. On n'est pas dans ce mental très très fort, en fait. Et eux, ils assument complètement. J'adore ça. Enfin, ils sont très forts pour ça. Et de leur côté, je prends mon destin en main. Et je me définis pas par ce que je fais à ce moment T. J'ai rencontré des building managers qui étaient en gros des chefs d'équipe de femmes de ménage qui faisaient ça comme un side job alors qu'elle était photographe de voyage à Cuba et qui était blogueuse à côté. J'ai rencontré des ingénieurs qui conduisaient des Uber. C'est vraiment l'American Dream. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris grâce à eux même. Enfin, et ça c'est, on se rend pas compte parce qu'on ne valorise pas à quel point ça. LinkedIn commence à le faire, mais il y a des choses, il y a des expériences qui sont de l'ordre de l'immatériel. Une femme d'expatriée qui va pendant 2 ans, tout le monde lui dit, elle a rien fait. Tout le monde m'a dit, t'as rien fait en fait. Ben en fait, elle a fait des choses. Elle a fait tellement de choses qui sortaient de sa zone de confort qu'en fait elle a appris des choses. C'est des skills, c'est juste qu'on ne les valorise pas parce qu'on ne peut pas les valoriser de cette manière, que c'est pas culturel. Mais c'est comme les Américains qui disent en fait c'est notre mom, elle sait organiser, elle sait anticiper, enfin elle sait éduquer, et c'est impressionnant ce que j'ai vu, comment elles font. J'ai jamais vu d'autres femmes le faire aussi bien. Et des hommes, parce que pour le coup, en plus, ça c'est incroyable, j'ai observé des hommes prendre des congés parentaux et les assumer. Et ça, le fait de voir comment ils en parlaient aussi, j'avais une impression d'avance sur plein de sujets. Il y a une observation sociologique qui à laquelle j'ai eu droit. C'est vraiment un stage d'observation. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, on va dire. Là, maintenant, je suis capable de parler à tout le monde, alors qu'avant, j'aurais pas osé prendre la parole.
Ouais.
Même avec mon accent effroyable en anglais, qui me disait que j'étais une petite Frenchie. J'étais là en train de les regarder. Non, mais mon loco, ça va rien vous dire. Hein, donc, on va pas aller là. Un très beau gars.
Bon, en tout cas, c'est super de voir que, enfin, dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui. T'as l'air d'être beaucoup plus centré, de savoir où tu vas, de savoir ce que tu veux. J'imagine que ça a été une expérience douloureuse malgré tout, mais c'est chouette en tout cas que du positif en ressorte. Je te dis bravo.
Oui, c'est ce que je dis et ce que je répète. En fait, je fais toujours la blague. J'étais Gandalf le gris, je suis sortie en Gandalf le blanc. Il faut pas avoir peur de son obscurité. C'est ça le truc. En fait, j'avais peur de ce que je pouvais rencontrer de moi. J'avais peur d'être incompétente, d'être nulle, d'être faible. Peut-être qu'en fait, j'avais besoin d'avoir ce moment de faiblesse. Qu'en fait, à ce moment-là, j'avais tellement donné avant que j'avais besoin de ce moment-là pour reset plein de choses. En fait, quand j'ai des moments difficiles aujourd'hui, et Dieu sait que j'en ai parce que au boulot, parce que j'ai encore un enfant en bas âge, parce que voilà, Covid, parce que mes parents sont quand même loin, parce que je sais que j'ai eu plein de frayeurs avant et puis je les ai dépassées. On apprend plein de choses des États-Unis, mais de manière générale, on apprend du fait de sortir de ce qu'on connaît, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. L'expatriation nous oblige à sortir des automatismes auxquels on ne pensait pas, mais qui sont tellement ancrés en nous. Et c'est ce que j'ai eu déjà en venant en France. Typiquement, je vais dire n'importe quoi. Moi, j'avais l'habitude de dire tout le temps « Inch'Allah ». Parce que j'ai grandi avec cette culture et que je ne pensais même pas à ce que ça voulait dire. Et quand je suis arrivée en France, je le disais plus une fois. Parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. En France, déjà, que j'allais pas... J'arrivais dans un pays laïque, donc ça n'avait plus aucun sens. Et en plus, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? C'est à ce moment-là où je me suis reposée la question. Est-ce que ça voulait dire remettre tout le temps les choses, toutes les choses les plus infimes entre les mains de Dieu, ça voulait absolument rien dire. Il y a à chaque expatriation, ça repose la question de certains automatismes auxquels on pense pas et qui sont tellement ancrés en nous que ça met du temps en fait. Ce qui est incroyable, quand on envoie un employé en expatriation, on sait qu'il faut qu'il s'adapte. Mais on pense jamais à la famille.
Ouais.
Alors qu'en fait,
c'est vrai.
Tous les expatriés, vous direz, moi j'ai rencontré il y a pas longtemps ma directrice de crèche qui m'a dit, moi j'ai connu 3 expatriations. À chacune, un seul membre de ma famille a été heureux. Elle l'assumait. Elle disait,
non mais ça dit tout.
Voilà,
c'est hyper...
À un moment, en fait, dans tous les cas, on peut pas être tous heureux. Et c'est normal. C'est juste, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, on l'a fait pour telle personne et ça remplit l'objectif de la famille. Mais est-ce qu'il faut le faire pour que tout le monde soit heureux? C'est aberrant. C'est une équation aberrante. C'est tellement dur déjà d'être heureux tout seul. Mais juste trouver des moments de gratitude ensemble en famille et faire tirer le meilleur de la situation. Mais il n'y a pas de situation où tout le monde va avoir sa part de gâteau, on va dire.
Je te remercie pour ces paroles toutes sages. La question traditionnelle de fin d'épisode, c'est quelles sont, selon toi, 5 choses à absolument, alors ça peut être voir, à goûter, à sentir, à vivre à Atlanta pour découvrir le Atlanta de Boutena?
Alors, il faut absolument aller au parc. Il y a un très beau parc, très grand parc, Peachtree Park. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez souvent pour les films, les séries, qui est très beau, très apaisant. Et on n'entend pas le bruit de la ville. C'est vraiment très mignon. Mm-hmm. Il y a un petit parcours à Midtown qui est assez sympa, à côté du parc, pour visiter toutes les petites maisons et immeubles autour. C'est très joli, ça fait une jolie balade et c'est très sympa. Moi, je dirais aussi, autour de Peachtree, il y a tout un très beau quartier caché de super belles maisons du sud. Mais vraiment, c'est avec les grandes colonnades, les beaux arbres. C'est il y a tout un quartier cossu très doux et arboré. C'est vraiment très beau. Bon, et après il y a aussi les fameux cinémas américains, des centres commerciaux avec les fauteuils tellement grands qu'on s'allonge parce que vous pouvez même vous allonger.
Je l'ai fait enceinte, c'est hyper
agréable.
C'est
vraiment agréable quand même. Sinon, en fait, le symbole d'Atlanta, c'est la pêche. C'est quand même le siège de CNN et de Coca-Cola et du musée des Civil Rights avec toute la maison de Martin Luther King et qui se visite assez bien, mais c'est plutôt petit. Quoi d'autre ? Il y a un très bon restaurant français, le Bill Bokeh, qui est très très bon. Et sinon, bon, il faut manger de la viande au sud. Il n'y a pas à dire. Et les fruits là-bas sont très très bons.
Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour ton entreprise, pour tes podcasts et dans la vie perso.
Ah bah écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir, c'était vraiment un plaisir, Anne-Fleur. J'espère que ça va aider et déculpabiliser les auditeurs ou juste les aider à se projeter aussi pour leur conjoint ou à savoir qu'en fait, si ils sont dans un moment un peu compliqué aujourd'hui, ça va aller mieux grâce à eux déjà. Et puis de ne pas hésiter à en parler, ils ne sont pas les seuls.
Et
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite balade du côté d'Atlanta vous aura plu et j'espère que cet épisode contribuera à rompre l'isolation et la solitude que l'on peut ressentir lorsqu'on est, par exemple, conjoint suiveur en expatriation. Je pense notamment aux mamans, mais il peut aussi y avoir des papas, ça peut toucher tout le monde. Vous n'êtes pas seul et j'espère que ce podcast vous aura fait du bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur Boutena, sur les podcasts sur lesquels elle travaille, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode, ainsi que sur le blog de French Expat, www.frenchexpatpodcast.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast de votre côté, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide énormément. Rendez-vous sur à peu près toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous quand vous en avez l'occasion. Mettez des petites étoiles, si possible 5, c'est le must quand c'est possible. Et puis si vous êtes utilisateur de Castbox ou d'Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en parlant, par exemple, de votre épisode préféré. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité et c'est une belle marque de reconnaissance de notre travail. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis encore merci d'être là chaque semaine et je vous donne rendez-vous dès demain. Et oui, 1er juin 2021 pour un épisode surprise. Allez, bonne journée et à très vite. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.